Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, le ministère public suisse réclame 5 ans de prison ferme pour les anciens cadres dirigeants de la société minière. La social-démocratie demande à ses membres qui rejoignent le gouvernement de technocrates de quitter le parti. Et le tennis à Wimbledon, Petra Kvitova passe en quart de finale. Le ministère public suisse réclame 5 ans de prison ferme ainsi que des sanctions pécuniaires pour les 6 anciens cadres dirigeants tchèques de la société minière Mostecká uhelná společnost MUS. Le procureur suisse Gérard Sautebin a également affirmé ce lundi que l'argent qui a été confisqué aux accusés servira à indemniser la société minière ainsi que l'État tchèque. La société MUS devra être indemnisée à hauteur de 276 millions de francs suisses, tandis que l'État tchèque sera lui indemnisé à hauteur de 150 millions de francs suisses. Ces anciens cadres dirigeants tchèques sont accusés d'avoir détourné des sommes considérables de l'entreprise sur des comptes en Suisse et d'avoir acheté une part majoritaire de cette firme pour cet argent. Les autorités suisses avaient confisqué aux accusés près de 555 millions de francs suisses. Le parti social-démocrate CSSD exige que ses membres qui ont accepté ou accepteront de siéger au sein du gouvernement de technocrates actuellement en cours de formation quittent le parti. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le leader du principal parti de l'opposition, Bohuslav Sobotka. Cette déclaration fait suite aux réponses positives données par Marie Benešová, František Koníček et Jan Kohout aux propositions qui leur ont été faites par le nouveau Premier ministre Jiří Rusnok de diriger les ministères respectivement de la justice, du travail et des affaires sociales et des affaires étrangères. Selon Bohuslav Sobotka, une participation au gouvernement de technocrates est inconvenable pour tout membre du parti. En tête dans les sondages depuis plusieurs mois, la social-démocratie souhaite en priorité la dissolution de la Chambre des députés afin de permettre l'organisation le plus rapidement possible d'élections législatives anticipées. Comme les autres partis représentés à la Chambre basse, le CSSD a fait savoir qu'il ne soutiendrait pas le gouvernement de Jiří Rusnok lors du vote de confiance. Le tribunal municipal de Prague a rejeté ce lundi la plainte de l'entrepreneur et milliardaire Andrej Babiš à l'encontre de la société Ringer Axel Springer, propriétaire du quotidien le plus lu en République tchèque, le tabloïd Blesk. Le milliardaire a reproché à ce journal d'avoir publié une quinzaine d'affirmations erronées à son sujet en faisant référence à son empire industriel dans l'alimentation. À la tête d'un mouvement politique citoyen, nommé Anno 2011, qui veut se présenter aux élections législatives de l'année prochaine, Andrej Babiš a racheté Mafra, le plus grand groupe de presse en République tchèque, jeudi dernier. La joueuse de tennis tchèque Petra Kvitová se retrouve en quart de finale après avoir battu ce lundi en 1h25 la joueuse espagnole Carla Suárez 7-6 et 6-3 à Wimbledon. La huitième joueuse favorite du tournoi, Petra Kvitová, affrontera au prochain tour la Belge Kirsten Flipkens. C'est un temps toujours ensoleillé qui règne sur l'ensemble du territoire ce mardi, jour de la fête de toutes les Patricies. Un temps toutefois pluvieux est attendu au nord et au nord-est du pays. Les températures sont en hausse et varient entre 23 et 27 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci donc à Denisa pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous chers auditeurs à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité en ce début de semaine figure tout d'abord une nouvelle manifestation anti-Rom. Ce rassemblement suivi d'affrontements s'est cette fois tenu à České Budějovice, c'est dans le sud de la Bohême. Mais surtout, il s'agissait de l'énième rassemblement de ce type en République tchèque, plus d'explications dans quelques instants. Nous nous rendrons ensuite à Karlovy Vary, c'est cette fois dans l'ouest de la Bohême, où se tient, vous le savez, le prestigieux Festival international du film. Nous y avons notre envoyé spécial, et puis comme chaque lundi, la seconde moitié de l'émission sera réservée au sport. Très bonne écoute. Une dizaine de blessés et une quarantaine de personnes arrêtées. Tel est le bilan des affrontements qui ont opposé samedi la police aux manifestants à České Budějovice en Bohême du Sud. Un rassemblement d'un millier de personnes sur la place centrale s'est transformé par la suite en une marche vers le quartier de Maille, un quartier où vit une importante communauté rome. Plus de détails avec Lucie Draxelova.
Ces incidents ont tout de suite été reliés par la presse aux précédentes manifestations anti-Rom qui se multiplient depuis 2008. La République tchèque est régulièrement critiquée par la communauté internationale pour la discrimination persistante de la minorité rom. Dernièrement, en avril 2013, le rapport annuel sur les droits de l'homme du ministère américain des Affaires étrangères a consacré un chapitre au statut social désavantagé de la minorité rom ainsi qu'à la violence subie par celle-ci. Selon ses organisateurs, l'objectif du rassemblement à České Budějovice était d'améliorer la vie commune dans le quartier de Mai. Au cours de la manifestation, les participants ont exprimé leur mécontentement avec la précarité de la cohabitation avec la minorité rom. Les slogans ont vite pris un ton raciste. Parallèlement au rassemblement d'un millier de personnes sur la place, une rencontre à l'ambiance festive rassemblant plusieurs dizaines d'habitants roms s'est déroulée dans le quartier, même avec le soutien d'une ONG locale. Connu désormais à l'échelle nationale, le quartier de Mai était pourtant passé presque inaperçu en 2012 lors d'une campagne des habitants qui réclamait une approche proactive de la mairie afin de faciliter le vivre ensemble de 22 000 résidents du quartier. Une pétition signée par près de 300 personnes a été présentée à la municipalité critiquant le coordinateur rom dans le quartier. Celui-ci ne serait pas suffisamment engagé pour éradiquer la violence dans les rues. Si la question est de mesurer l'ampleur des manifestations, les chiffres sont importants. Dans le quartier de Mai habitent environ 22 000 personnes, dont la proportion de la minorité rom est estimée à quelque 400. La manifestation du samedi 29 juin a attiré un millier de personnes, dont quelques centaines ont enchaîné avec la marche vers Mai et se sont affrontées avec la police. La pétition contre le coordinateur rom de juin 2012 a recueilli près de 300 signatures. Indépendamment des chiffres, c'est souvent la contextualisation de ces incidents qui leur fait gagner en signification. Le Centre européen pour les droits des Roms a noté que 23 attaques violentes se sont produites contre les Roms et ont fait 3 victimes entre octobre 2012 et mars 2013. Rien qu'en 2012, 16 manifestations anti-Roms se sont déroulées en République tchèque. Litvinov en 2008, Rumburk en 2011 et Duchcov il y a à peine une semaine, ce sont des rassemblements à ton raciste qui ont marqué l'imaginaire public et ont été suivis de près par les médias. Les marches dites contre la violence ou encore pour la décence ont souvent pris l'allure des événements anti-Roms avec les slogans racistes. Pour Yitka Bartova, la maire de Duchcov, Bohême du Nord, les marches représentent surtout un défilé de l'extrême droite.
Depuis les émeutes dans la région du nord de la Bohême, j'ai eu la confirmation que ces événements sont surtout investis par des extrémistes.
Qui sont réellement les participants à ces manifestations et où se positionne la population locale? D'après certains, les marches des militants d'extrême droite se déroulent avec le consentement des habitants. Intellectuel et théologien, Ivan Stampach met en garde devant une sclérose de l'histoire nationale qui serait propice pour le développement de toute forme du racisme. Il remarque surtout qu'une idéologie raciste n'est pas constitutive d'une solution des problèmes du vivre ensemble au niveau local. En revanche, pour la journaliste Sacha Oulova, la source principale des tensions est la précarité économique et sociale d'une grande partie des habitants. Pour elle, les régions en crise actuelle ne sont pas davantage peuplées des gens inclinés racistes, mais plutôt des gens frustrés par la dégradation des services sociaux et des moyens de transport ou des fermetures des hôpitaux et écoles. Tandis que les critiques s'accordent sur la défaillance durable de la gouvernance locale qui serait à la source des tensions, les responsables régionaux se concentrent, eux, sur les défis immédiats. D'un côté, la question se pose sur leur capacité à interdire une telle manifestation. En effet, la loi sur le droit de rassemblement le permet si un rassemblement porte atteinte aux droits personnels, politiques ou autres des citoyens du fait de leur nationalité, genre, race, origine, conviction politique, croyance religieuse ou statut social, ou bien s'il mène à appuyer la haine et intolérance pour ces raisons. D'un autre côté, la solution actuelle consiste à une présence policière accrue et une plus grande répression. Radomír Hejman, président de la police du Bohême du Sud.
Les gardes renforcés de la police vont circuler dans le quartier de Mai. Leur présence sera maintenue. Pour le moment, il n'est pas clair pour combien de temps, mais certainement tant que la tension durera.
dokud tam bude převládat nebo vládnout určité napětí.
À peine les événements de České Budějovice ont-ils été analysés, une autre actualité vient en complément. Les gardiens de la maison seraient instaurés à Frýdek-Místek, cette fois à l'extrême est de la Moravie. Avec le soutien de la police locale, les gardiens issus de la communauté, souvent roms, devraient contribuer au maintien de l'ordre ainsi que d'un standard sanitaire plus élevé de leur quartier.
On passe à la culture. Vendredi dernier s'est ouverte la 48e édition du Festival international du film de Carlo Vivari. Cette année encore, le panel d'horizons cinématographiques qui s'offre au public tchèque et copieux, outre les vedettes mondiales présentes dans la ville thermale de Bohême de l'Ouest, les cinémas tchèques et français sont également mis à l'honneur. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Pierre Maignan. Pierre, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors le festival en est ce lundi à son quatrième jour. Quels ont été jusqu'à présent les moments forts de ce début de festival?
Alors oui Guillaume, la 48e édition du festival de Carlo Vivari s'est ouverte vendredi soir par la projection du film L'écume des jours. L'adaptation du roman éponyme de Boris Vian est réalisée par le réalisateur fantasque français Michel Gondry. Ce dernier était d'ailleurs présent pour la première fois dans la ville thermale où il a été accueilli par le président du festival, Jerzy Bartoszka, pardon. Rôle principal dans le film de Michel Gondry aux côtés de Romain Duris, Audrey Tautou, qui devait accompagner le cinéaste, a annulé sa venue le vendredi même à Carlo Vivari où le fabuleux destin d'Amélie Poulain avait été récompensé en 2002 du Globe de Cristal, le prix le plus prestigieux de l'événement. Malgré son absence, les amateurs de célébrités ont pu se consoler le lendemain, samedi, avec la venue de l'acteur américain John Travolta, qui s'est fait connaître pour ses films musicaux. Il est arrivé en toute simplicité avec l'un de ses avions personnels pour recevoir un globe de cristal, récompensant sa contribution au cinéma mondial. Mais le festival de Carlo Vivari, ce ne sont pas seulement les paillettes. Dimanche, les représentants de l'association des producteurs de l'audiovisuel ont organisé une conférence de presse pour critiquer la nouvelle loi régissant le financement du secteur. Celle-ci privilégie des partenariats avec des entreprises privées et n'évoque que marginalement un soutien public.
Alors comme chaque fois ces dernières années, il y a eu également la projection d'un film tchèque entièrement restauré. De quel film s'agissait-il cette année?
Ah oui, en effet. Alors après Markéta Lazarova de František Vlachil et Au feu les pompiers de Miloš Zeman, c'est un autre film très important des années 1960 qui a eu droit à une projection en avant-première et en version entièrement remasterisée ce samedi. Ce film, c'est Les Chroniques Moraves de Vojtěch Jasný. Lui, il s'est déclaré heureux comme un gosse. Considéré comme l'une des œuvres majeures de la nouvelle vague tchécoslovaque, Chroniques Moraves dresse un portrait audacieux et très politique du monde rural au début de la période communiste, marquée par une collectivisation brutale des terres.
Alors ce qui intéresse toujours en priorité les médias, aussi le public, ce sont les films en compétition. 14 films, donc cette année en compétition, et parmi ces films, un film français.
Alors oui, ce qui intéresse le public français, ce sont aussi les films français en compétition. Et il y en a un cette année, il s'agit de 11.6 de Philippe Godot, le deuxième film de ce réalisateur, jusqu'alors connu pour son travail de production. Comme l'a noté Eva Zaorarova, avant la première projection du film dimanche, cette œuvre s'inscrit dans un phénomène récent, au moins en Europe, qui consiste à s'emparer de sujets d'actualité brûlants. En l'occurrence ici, la trame du film suit Tony Musulin, un convoyeur de fonds sans histoire qui a défrayé la chronique en 2009 en subtilisant sans armes ni violence 11,6 millions d'euros. J'étais présent lors de la projection et le film a été beaucoup applaudi. Il faudra attendre samedi prochain pour connaître le vainqueur de la compétition officielle.
Mais la sélection de films français à ce festival ne se limite pas à ce film. Vous avez déjà évoqué L'écume des jours qui a été projeté lors de la cérémonie d'ouverture. Quels sont les autres films qui sont donc présentés au public tchèque?
Alors oui, très présent sur le marché cinématographique tchèque, où il occupe régulièrement la troisième place, le cinéma français est également bien représenté à Carlo Vivari avec plus de 25 productions ou coproductions, qu'il s'agisse de fiction ou de documentaire. On peut citer notamment l'œuvre de Vincent Lanoux, qui est belge. Le film s'appelle « Au nom du fils » et il traite du sujet délicat de la pédophilie dans le monde religieux. Il a également la présence du réalisateur Jean-Gabriel Perriot, qui est un jeune réalisateur de documentaire et qui revient avec un film « Le jour a vaincu la nuit » qui s'attache à décrire l'univers pénitencier sous un autre jour puisqu'il donne l'occasion à des prisonniers de raconter leurs rêves face à la caméra.
Voilà, c'est donc avec Pierre Maignan à Carlo Vivari que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme chaque lundi, vous le savez, on retrouve maintenant la rubrique sportive. Neil Brown, malgré son nom, est patineur artistique français. Pourtant, c'est sous les couleurs de la République tchèque qu'il a participé au concours de danse des championnats d'Europe de Sheffield en janvier dernier. Une grande première que Neil Brown doit à Lucie Mislivečková, patineuse tchèque qui s'était retrouvée sans partenaire dans son pays. Depuis un an environ, le couple franco-tchèque s'entraîne à Lyon. C'est là, à la sortie de l'entraînement, que Radio Prague les a rencontrés il y a quelques semaines. Nous vous proposons aujourd'hui l'entretien avec Neil Brown qui a d'abord expliqué comment un patineur français en était arrivé à représenter la République tchèque. Il s'agit là d'une rediffusion de l'émission du 29 octobre 2012.
Sport en République tchèque.
Tout simplement, ça s'est fait parce que moi, quand j'étais blessé en fait il y a un an et demi, et ma partenaire de l'époque avait arrêté après les championnats de France. Du coup, j'ai cherché un petit peu une partenaire et en France, il n'y avait personne. Donc j'étais contacté par Lucie et là, on a décidé de faire des essais. Et par la suite, on s'est dit, bon, on va représenter la République tchèque parce qu'en fait, il y a un système de règlement international par rapport à l'ISU. Qui dit que il faut attendre un an pour changer de pays. En fait, pour représenter un autre pays, il faut attendre un an. Et moi, vu que j'avais fait ma dernière compétition internationale était plutôt que celle de Lucie qui avait fait les championnats du monde au mois de mars, si on avait voulu représenter la France, il aurait fallu attendre encore un an. Et donc c'était plus intéressant pour nous de représenter la République tchèque.
Et qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que Français de concourir pour les couleurs tchèques?
Au final, les couleurs sont les mêmes que la France, donc ça ne me gêne pas du tout. J'étais pas particulièrement attaché à la France dans le sens où ça me gêne pas du tout de patiner pour un autre pays, parce qu'au final, ce que j'aime, c'est patiner. C'est pas le pays en question qui me pousse à patiner, donc ça, c'était pas un réel problème. Ce qui était intéressant pour moi aussi, c'est qu'il y avait beaucoup moins de compétitions en République tchèque, beaucoup moins de couples. Et du coup, ça nous permettrait de partir plus facilement en international sur les grandes compétitions comme les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc ça permet, c'est un choix aussi stratégique. Non pas que c'est plus facile, c'est juste qu'il y a moins de monde. Donc en fait, au niveau de la loterie, c'est un petit peu plus simple. Donc.
Comment Lucie vous a-t-elle trouvé?
Elle m'a envoyé un email au début, à travers Facebook tout simplement. Parce que bon, moi, je la connais depuis... ça va faire bientôt 8 ans, parce qu'en fait, on a fait notre première compétition internationale ensemble en 2005. Donc, on s'était recroisés quelques fois en compétition. Et donc, elle m'avait envoyé un email courant juin, il y a 2 ans, quand elle s'était séparée de Matej. Mais il y a un an, pardon. Mais moi, j'étais pas du tout sûr de continuer à l'époque, parce que j'étais blessé au genou et je venais de subir une lourde intervention. Sur le genou, donc j'ai pas donné suite à la réponse à ce moment-là parce que je ne savais pas si je pouvais repatiner ou pas physiquement. Et puis finalement, elle a recontacté mon entraîneur, Romain Aguenoer, et ensuite on en a discuté. Et puis en l'espace d'une semaine ou deux, en fait, elle est venue à Lyon, on a fait quelques essais, ça a été concluant, et puis on est parti de là directement, on s'est lancé dans l'aventure.
Pour un couple, est-ce difficile de changer de partenaire?
Oui, enfin, il y a des choses qui sont plus dures. C'est sûr qu'il faut s'habituer à la personne d'un point de vue physique, tout simplement. Ma partenaire d'avant n'avait pas forcément la même morphologie, la même intensité dans le patinage, le même engagement. Du coup, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer. Mais globalement, c'est l'histoire de quelques semaines de commencer de s'adapter en fait au style de patinage de Lucie et elle au mien. C'est pas forcément facile, mais là encore aujourd'hui, on est encore en phase d'adaptation. Ça prend des années pour pouvoir créer une osmose parfaite. Maintenant, c'est vrai que globalement, en l'histoire de quelques semaines, on arrive quand même à trouver un certain ensemble
Oui, parce que finalement, les choses se sont mises en place plutôt rapidement. Alors, vous avez participé en début d'année au championnat d'Europe. Combien de travail y a-t-il eu avant de pouvoir participer à cette compétition pour qu'il y ait des automatismes, pour que les deux partenaires se comprennent bien sur la glace?
Bien sûr. La chose qui a été très particulière, en fait, pour moi, ici, ça a été que quand on a décidé de patiner ensemble, donc ça, c'était courant octobre l'an dernier, on a commencé à monter les programmes très très vite parce qu'on était parti en compétition à Zagreb début décembre. Donc on a eu un mois, littéralement un mois, pour monter les programmes, apprendre à se connaître, patiner ensemble et faire notre première présentation à Zagreb, ce qui était quand même vraiment pas évident, sachant qu'en général, on a les deux mois d'été pour préparer tranquillement le montage des programmes. Ça a été vraiment une histoire de monter un programme en une semaine et de performer le jour de la compète trois semaines plus tard, donc ça n'a pas été évident. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui a fait le fait qu'on s'est adapté si vite. En fait, on a été forcé et poussé dans le bain très très vite de la compétition. Du coup, on s'est adapté très très vite au final.
Et comment se sont passés pour vous donc ces championnats d'Europe et aujourd'hui, quelques mois plus tard, alors que vous préparez actuellement pour la nouvelle saison qui va bientôt commencer, quels sont vos objectifs, dans quelle mesure souhaitez-vous progresser?
En ce qui concerne les championnats d'Europe, ça a été déjà pour moi, c'était ma première expérience de grande compétition internationale. Lucie avait déjà fait championnat d'Europe, championnat du monde, donc c'était complètement nouveau. C'était une expérience fantastique. Au niveau des performances, j'étais très très content du programme court qui nous a la short dance qui s'était très bien passé. Forcément un petit peu déçu du libre avec l'erreur qui nous a coûté quand même très très cher, mais en général ça a été une belle satisfaction. Et pour moi, de revenir de l'année que j'avais eue avec la blessure, avec une nouvelle partenaire et de participer au championnat d'Europe, ça a été une victoire personnelle.
Excusez-moi, quel avait été votre classement final?
À 19e au final. Donc c'était une bonne performance pour nous au final, pour débuter. Voilà, un couple qui débute, qui arrive en compétition comme ça, on était quand même très contents. Maintenant, en ce qui concerne cette saison, on aimerait bien... Bon, je pense qu'on a bossé énormément cet été là, entre Lyon et Prague. On aimerait bien. Le but, c'est de repartir au championnat d'Europe et au championnat du monde cette année. Donc, pour faire ça, il faudrait qu'on soit le couple numéro 1 tchèque. C'est ça l'objectif, tout simplement. Et puis de s'améliorer de chaque performance, en fait, que chaque compétition soit mieux que la dernière. Et petit à petit, d'assurer, travailler vers les championnats nationaux au mois de décembre pour qu'on sorte vainqueur de cette compétition-là.
Comment envisagez-vous votre collaboration à plus long terme? Alors, cette année, pour 2012-2013, vous avez évoqué les championnats d'Europe, les championnats du monde. L'année prochaine, il y aura également les Jeux Olympiques. Est-ce pour vous un objectif, un but vraiment concret? C'est pour tous les sportifs, cette échéance qui revient tous les 4 ans, c'est quand même le grand objectif.
Oui, non, c'est sûr. Les JO, c'est le rêve de tout sportif, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'y participer, ce serait fantastique. En ce qui me concerne, pour pouvoir participer, il va falloir que j'aie le passeport tchèque, chose que je n'ai pas pour l'instant. Donc on est en pleine démarche, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais bon, c'est une démarche qui prend du temps. L'objectif de l'an prochain, ça sera la sélection pour les JO, ça sera vraiment de partir là-bas si on a le passeport. Si on n'a pas le passeport, on se concentrera sur les championnats d'Europe, championnats du monde. Mais les JO, c'est le but et on travaille dans ce sens-là tous les jours.
Vous avez évoqué vos allers-retours entre Prague et Lyon cet été. L'essentiel de votre travail se fait quand même ici d'abord à Lyon.
Oui, on est basé à Lyon, donc on s'entraîne à l'année ici. Et c'est vrai qu'on est resté en très bon... Enfin, Lucie est restée en très bon terme avec son ancien entraîneur, Rostislav Sinitsyn. Et du coup, ça nous amène à partir un petit peu là-bas et travailler avec lui de temps en temps. Là, on était parti fin août parce qu'il y avait les sélections en République tchèque. Donc, on en a profité pour faire une semaine là-bas, un petit peu partir une semaine plus tôt. On était parti l'an dernier dans le même cadre, juste avant les championnats nationaux. Ça nous a permis de retravailler un petit peu avec lui et d'être sur place, de ne pas avoir à voyager et puis ensuite enchaîner tout de suite derrière une compétition, mais de se poser un petit peu avant. Donc on essaye de faire ça de manière régulière quand c'est possible. En général, ça fait, je sais pas, je dirais peut-être 4 ou 5 semaines à la saison, de manière éparpillée. Travailler avec Rushdie et sa femme Natalia.
Peut-on parler d'écoles différentes au niveau patinage entre la France, la République tchèque ou plus généralement les pays d'Europe centrale et de l'Est? Y a-t-il vraiment des différences dans la façon de patiner, aussi de travailler, d'envisager la chorégraphie, le programme?
Oui, on peut. C'est clair que bon, Lucie sort d'une école russe avec son entraîneur Rochti qui est russe. Moi, je sors de l'école française. C'est vrai que c'est très différent. C'est deux écoles qui sont. Il y a certaines choses qui sont complètement similaires, complètement identiques au niveau de la technique. Après, il y en a d'autres où il faut s'accorder, voir avec les entraîneurs quelle est la solution qui pourrait être la plus idéale. Et puis aussi par rapport à notre couple, vu qu'on est de deux écoles différentes, après, quand on patine ensemble, il y a certaines choses qui passeront peut-être mieux par rapport à nos corps, d'autres qui passeront moins bien. Du coup, après, c'est un choix personnel et un choix qu'on effectue avec les entraîneurs. Au niveau chorégraphique et artistique, bon, on a pas encore eu énormément l'occasion de travailler chorégraphiquement avec Sinitsyn en Russie. On a essentiellement travaillé avec des chorégraphes français et nos entraîneurs ici en France cette année. Donc on verra, peut-être dans le futur je pourrais un petit peu plus développer ça, mais je serais très intéressé de travailler avec lui sur un plan chorégraphique. Après oui, il y a le milieu, je pense, de l'école russe est très basé énormément sur la performance et sur l'engagement, et chose en France où on n'en a pas forcément conscience. Partir en compétition internationale en France, vu qu'il y a tellement moins de monde qu'en Russie, les Russes ont tendance à avoir plus de rage de vaincre. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ressens particulièrement chez Lucie. C'est une chose qu'on m'a dit que moi, j'avais. Donc, c'est vrai que là, par rapport à ça, on est très, très bien, très, très bien associés. Mais c'est vrai que oui, par rapport à la partenaire précédente que j'avais eue, c'est vrai que oui, là, chez Lucie, je le ressens particulièrement. Je dirais que ça, c'est une des plus grandes différences.
Et donc, pour vous, c'est plutôt un avantage, un apport aussi sur le plan personnel, pour vivre votre passion, une découverte, on va dire.
Oui, de toute façon, c'est un apport. C'est sûr qu'il y a des petits moments où il va y avoir des petites choses techniques qui vont coincer parce qu'on a deux écoles. Cela dit, ça permet de nous poser des questions aussi, qui sont plus intellectuelles par rapport au sport, à savoir pourquoi est-ce que telle école serait mieux ou pas. Et du coup, ça nous permet de travailler notre sport au niveau intellectuel, qui est quand même très très intéressant et qui nous fait évoluer. Donc par rapport à ça, oui, c'est un enrichissement personnel, ça c'est clair. Ça me permet, moi, par rapport à mon école française, de voir en comparaison à l'école russe pourquoi est-ce qu'ils envisagent tel pas comme ça, et d'essayer de comprendre leur système. Et moi, ça me fait évoluer, et vice versa. C'est vrai que ça nous arrive régulièrement avec Lucie, en plein milieu d'un entraînement, de nous arrêter pendant 5 minutes et d'essayer de comprendre quel système est le mieux et pourquoi. Et ça, du coup, oui, c'est un vrai apport.
Dernière chose, est-ce que ce type de collaboration est fréquent dans le patinage? C'est quand même quelque chose de très spécial que deux sportifs de nationalités différentes puissent concourir pour un seul drapeau.
En général, ça arrive assez souvent pour les petits pays. Quand on regarde les couples qui viennent du Canada, des États-Unis, de la Russie, en général, c'est tous des couples de la même... de la même nationalité, mais pour des couples qui sont où il y a tout simplement moins de monde, c'est là qu'on retrouve justement ces partenariats formés de deux personnes avec deux nationalités différentes. C'est le cas aussi d'un couple qui représente la Lituanie, avec lui qui est lituanien et elle qui est américaine. Ça arrive pour ces raisons-là. En général, c'est comme je disais, moi dans mon cas, je suis parti parce qu'il y avait pas mal de monde en France aussi, et vu que j'étais blessé, j'étais moins connu du coup, parce que j'avais pas pu patiner pendant un an en France. Donc pour moi, c'était plus intéressant de représenter la République tchèque. Aux États-Unis, ça arrive fréquemment qu'il y ait des centaines de patineurs, et du coup un patineur va peut-être représenter Haïti ou des pays un petit peu moins grands, pour avoir accès justement à ces grandes compétitions.
Voilà, c'est la fin du bloc actualité de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention.